Bonjour, ici Hugo Prévost, le rédacteur en chef de pieuvre.ca. Si vous aimez nos épisodes de podcast, si vous aimez ce qu'on publie sur notre site, je vous invite à nous encourager en vous abonnant à notre page Patreon. Pour seulement 5 $ par mois, ça vous donne accès à une séance de questions-réponses. Ça vous donne également accès à des épisodes en primeur du balado Rembobinage. Et nous, avec votre contribution, ça nous permet de payer nos journalistes, nos pigistes. Ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions. Et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Salut Kevin, comment ça va?
Salut Hugo, ça va et toi?
Ça va, ça va. Écoute, on est déjà rendu au 7e épisode bonus, donc de notre balado Rembobinage. Épisode bonus, bien évidemment, juste avant le début de l'épisode, comme d'habitude, vous avez le petit laïus pour l'abonnement. Donc, c'est un de ces fameux épisodes-là auxquels vous avez droit si vous payez, vous abonnez au palier de 5 $ par mois, voilà, sur notre Patreon, le Patreon de Pieuvre. Donc, un épisode en primeur, toujours un film qui est plus vieux, donc sorti plus longtemps que les films dont on parle habituellement au podcast, et un film qui est facile à trouver, si jamais vous voulez l'écouter, donc facile à trouver que ce soit en DVD, en ligne, et je pense que même dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, facile à trouver peut-être même en VHS, j'allais dire en gravé sur du marbre, mais c'est quasiment ça. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine, Kevin?
On parle de Dazed and Confused, un film qui célèbre son 30e anniversaire cette année.
Effectivement, Dazed and Confused, un film de Richard Linklater qu'on a connu, entre autres, pour Boyhood. Et je suis allé faire d'autres choses, évidemment. Et je suis allé voir sa filmographie avant qu'on enregistre. Puis je me suis rendu compte que c'est quand même lui qui avait réalisé School of Rock avec Jack Black. Et je me suis aussi rendu compte que ça fait 20 ans que School of Rock est sorti.
Bon.
Ça m'a fait mal un petit peu.
Aussi, Linklater, moi, j'aime beaucoup. Il a fait une trilogie, Before Sunrise, Before Sunset, puis Before Midnight. Trois excellents films, si vous les avez pas vus.
Ben, j'avoue que je ne connais pas ceux-là. Moi, j'ai vu Scanner Darkly, qui était un peu le retour de Robert Downey Jr. là, après des années d'excès et de, disons, une vie un peu dissolue. Bon, évidemment, dépendance à la drogue, c'est un problème médical. Là. C'est pas quelque chose qui est agréable et qui ce serait certainement voulu par les gens qui en souffrent. Bref, donc, après ça, évidemment, Downey Jr. qui a hérité du rôle d'Iron Man, entre autres. Et là, depuis ce temps-là, bon, ben, il a fait à peu près, justement, une vingtaine d'années quasiment de films de Avengers. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de Scanner Darkly. Peut-être un jour, avec Keanu Reeves, d'ailleurs, ce film-là, qui était très intéressant. On est là, comme tu disais, pour parler de Dazed and Confused, 30e anniversaire cette année. Je dois avouer, et je vais te demander ton avis dans quelques instants, mais je dois avouer que j'ai eu beaucoup de misère à écouter Dazed and Confused. Ça m'a pris une bonne heure avant de commencer à trouver ça intéressant. Toi, est-ce que tu as aimé le film?
Moi, c'est vraiment un de mes films préférés. Et c'est un film aussi que plus que le temps avance, plus je l'aime. C'est un film que moi, j'ai vu quand j'étais ado moi-même, comme les personnages du film. Et je trouvais ça le fun, j'aimais ça, mais tu sais, j'avais acheté la trame sonore. Fait que tu sais, c'est un film que j'aimais, mais peut-être pas un de mes films préférés, mais plus que je le revois au fil des ans, je pourrais en parler plus en détail, plus que je l'aime, plus que peut-être vu que je vieillis, fait que quand j'étais ado, c'était un peu ma réalité, fait que c'était comme « Ah, ok, c'est cool », mais plus que je vieillis, plus que c'est comme la nostalgie de... Même si moi, mon adolescence, c'était dans les années 90 et non les années 70, mais quand même, je retrouve plein de trucs que j'ai vécu, puis tu sais, comme je regardais le film hier soir, puis j'étais comme « Ah, wow, ok, quand même ». Tu sais, cette époque-là, quand tu fais vraiment beaucoup le party en jeune, puis tout ça, c'est... On peut encore faire le party en tant que fin trentaine, début quarantaine, mais c'est autre chose, on s'entend.
Oui, ben, écoute, seras-tu surpris d'apprendre, j'ai déjà mentionné au podcast au moins une fois ou deux, que je ne faisais pas le party quand j'étais ado, ou à peu près pas. Donc, je pense que ça rejoint un peu pourquoi j'ai bien de la misère à connecter avec ce film-là. Mais avant qu'on rentre vraiment dans notre analyse, chacun de notre côté, est-ce que tu aimerais nous résumer justement, tu as mentionné le mot party, est-ce que tu aimerais nous résumer un peu ce qui se passe dans ce film-là?
Oui, je vais essayer d'être bref parce que c'est ce qui est drôle avec ce film-là, c'est un film un peu qui a comme pas d'histoire, mais en même temps, il se passe plein de choses. Fait que vu qu'il n'y a pas une histoire qui se résume en une phrase, si je me mets à tout décrire, tout ce qui se passe, ça va être super long. Fait que je vais essayer de trouver un entre-deux. Ça se passe le 28 mai 1976 au Texas. Je pense pas que c'est précisé, c'est dans quelle ville, mais le film a été tourné principalement à Austin, qui est la capitale. Et c'est le dernier jour des classes. Puis le film commence, les jeunes sont à l'école, tout ça. Puis il y a comme une espèce de rite d'initiation que ceux qui vont être les seniors la nuit suivante font faire une initiation à ceux qui vont commencer le high school à ce moment-là, l'année après l'été. Donc, d'un côté, il y a les petits gars qui se font tabasser à coups d'espèces de palettes, on dirait une palette de criquet. Et les filles se font comme salir avec du ketchup, tout ça, et se fait, les plus grandes forcent les plus jeunes à demander en mariage les étudiants plus vieux, en tout cas, tout ça. On est un peu dans l'humiliation, là. Mais ça, c'est juste un peu au début du film. Éventuellement, comme je disais, c'est pas un film qui a une histoire claire dans le sens que, ah, OK, il y a tel drame qui se produit et cette scène-là mène à telle autre scène et blablabla, et il y a la quête du héros et nanana. On fait plus suivre les personnages pendant toute cette journée-là et surtout toute la nuit. Rendu en soirée après l'école, tout le monde veut faire le party. Tout le monde est à la recherche d'un party. Il est supposé d'avoir un party chez un jeune que ses parents s'en vont pour le week-end. Finalement, le party est annulé. Donc, tout le monde erre un peu. Il y a beaucoup de scènes en voiture, tout ça, de cruising, comme disent les Américains. Et on se ramasse dans une salle de billard, on boit de la bière, on fume du pot. Et finalement, divulgacheur, il y a un party un peu spontané qui s'organise dans une espèce de champ abandonné. Les gens amènent des kegs de bière. Il y a évidemment beaucoup de marijuana. On est dans les années 70, c'est le gros party.
Oui.
Et bon, je pense que c'est le résumé le plus simple que je peux faire. Dans le reste de l'épisode, on peut aller plus en détail sur les nombreux personnages. Il y a quelque chose comme 25 personnages qu'on suit vraiment à travers tout ça. Il se passe plein de petits trucs, mais c'est ça, il n'y a pas de grande trame narrative de ah, OK, tu sais, c'est pas l'histoire, tu sais, c'est pas un mélodrame d'ado que bon, la fille tombe enceinte, puis ah, l'autre, le gars, il veut absolument, je sais pas trop, trouver une clé pour déverrouiller un trésor ou tu sais, peu importe, là, je dis n'importe quoi, là. C'est vraiment juste. Moi, c'est ce que j'adore de ce film-là, c'est ce que Quentin Tarantino appelle un hangout movie. C'est vraiment, on passe du temps avec des personnages, on les écoute parler, on les regarde faire le party, on les regarde se promener, puis juste vivre, ou pour dire en anglais, live in. Livin. Et c'est cela. Puis moi, j'adore ça.
Effectivement, comme tu dis, il n'y a pas d'histoire centrale à part de dire, bon, ben, c'est comme tu mentionnais, c'est la fin de l'année scolaire et là, on fait la fête. C'est classé comme étant un film coming of age. Donc, évidemment, tu le disais, bon, les plus vieux s'en vont, les plus jeunes arrivent, il y a les fameuses initiations. D'ailleurs, moi, j'avais fui la mienne comme la peste à l'université. Donc, tu vois à quel point je suis quelqu'un qui aime le danger et le risque. Mais c'est ça. Donc, comme tu mentionnais aussi, bon, on suit plusieurs personnages. Ces personnages-là vont subir une espèce d'évolution au courant de la soirée. Ça se passe effectivement, là, je pense que tu l'as dit aussi, à peu près en 12 heures, pas beaucoup plus que ça. Je trouve ça intéressant que l'éclateur est situé ça en 76. Puis, tu as mentionné, je fais un crochet, mais en tout cas, t'as mentionné la bande sonore tantôt. Fantastique. Ceux qui aiment le classic rock, le vrai classic rock, le pas Blink 182, mettons. parce que oui, j'ai entendu quelqu'un dire que Blink 182, c'est du classic rock, et j'ai eu très mal en dedans de moi. Donc, le vrai classic rock, ce qui passe en boucle à chaume, ça joue. Je sais pas combien ça coûte en droit pour la musique. Ça coûte ça peut-être moins parce que ça s'est passé, ça s'est tourné il y a 30 ans, mais.
Non, mais si tu me permets rapidement, oui. Ça a coûté cher de musique. Je lisais que Richard Linklater, il a presque fait aucun argent avec ce film-là. Parce qu'il voulait tellement avoir toutes les tunes de classic rock de son adolescence des années 70 qu'il a comme sacrifié une partie des revenus qu'il aurait eu pour pouvoir avoir cette trame sonore-là.
Bon, ben ça s'explique cela, parce que comme je disais, tout est là, tous les grands noms sont là ou à peu près. Je pense qu'il y a rarement plus qu'une minute, deux minutes d'une chanson avant qu'on passe à l'autre. Et c'est vraiment, ce sont d'excellentes chansons, des chansons très connues. Donc, on a mis le paquet là-dedans, mais comme je disais, c'est intéressant que ça se situe en 76 parce que les jeunes sont enthousiastes. Les jeunes sont, en tout cas, largement enthousiastes. Tu disais, bon, il y a du cruising, tout le monde a son char, c'est des grosses bagnoles, des bagnoles vraiment des années 70. Il y a zéro aérodynamisme là-dedans. C'est vraiment, tu sais, on est américain, on a des grosses maisons, on est des high schoolers, l'avenir nous appartient. Et 76, ben c'est pas longtemps, évidemment, après la fin officielle de la guerre du Vietnam. Donc, l'apparente, évidemment, le traumatisme n'est pas fini, mais puis ces gens-là sont pas allés se battre, c'est sûr. Mais on donne l'impression que, OK, c'est vraiment un nouveau souffle. On va aller chercher autre chose. La présidence de Gerald Ford se termine prochainement. Ça va être quelqu'un de nouveau et de progressiste qui s'appelle... là, je ne veux pas mélanger mes choses. J'allais dire Nixon, mais il était déjà parti. Bref, quelqu'un d'autre.
Jimmy Carter, je pense.
Pardon?
C'est Jimmy Carter qui embarque.
Ah oui, pardon. Donc, je me suis trompé dans mes présidents américains. Mais bref, donc, on a tourné, comme je disais, la page du Vietnam. Au courant du film, on nous dit, je pense que Molly, il y a justement des gens plus âgés qui disent, ils ont la théorie de, à chaque deux décennies, il y a des choses bien qui se passent, puis entre les deux, c'est poche. Donc, ils disaient, les années 60, c'était complètement fou, les années 70, c'était un peu de la chenoute, et donc, les années 80, ça devrait être extraordinaire. bon, évidemment, c'est un scénario, c'est un dialogue qui est écrit, parce qu'on sait, bon, en 79, je pense, 78-79, la crise, en tout cas, une des premières crises du pétrole, il va y avoir une crise économique, il va y avoir toutes sortes de problèmes. Les années 80, bon, c'est Reagan qui arrive, mais aussi, bon, d'autres problèmes aux États-Unis, la drogue, le sida, bon. Oui, ouais. Effectivement. Mais il y a un optimisme quand même, puis peut-être qu'un jour, on fera un épisode sur Wall Street. J'aimais beaucoup parce que, en tout cas, ce film-là, j'ai un peu une relation, malgré que ça dépeint un capitalisme dégueulasse, il y a quelque chose de vraiment séduisant là-dedans. Bref, donc, on a cette espèce de parenthèse de 3-4 ans entre la fin de la guerre du Vietnam et la crise de la fin des années 70, la crise de l'OPEP, donc, tout est beau, tout est extraordinaire, puis pour des jeunes, c'est ça, c'est l'avenir nous appartient, puis c'est le temps de faire le party. Je comprends l'attrait d'avoir situé ça là. Ce que j'ai eu de la misère à voir, puis ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, je disais que moi, j'ai pas fait le party quand j'étais jeune. Tu sais, on attend, moi j'attendais l'élément déclencheur, j'attendais... l'évolution des personnages, j'attendais le deuxième degré peut-être, et il y a un deuxième degré qui se dégage peu à peu. Linklater n'est pas un mauvais scénariste, là, un mauvais réalisateur, au contraire, mais je pense que c'était la même chose dans Boyhood, si je me trompe pas, ce film-là dure 3 heures et plus. Là. Ça prend du temps, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et quand j'ai commencé à écouter le film, la première demi-heure, c'est ça, c'est des gens qui se font humilier, des gens qui vont se faire battre, des affaires qui ont... Peut-être que ça arrivait comme ça dans les années 70, évidemment, j'étais pas là, toi non plus, faudrait que je demande à mes parents, mais j'étais offusqué, là, je veux dire, ça m'écœurait. Oui, mais
t'sais, c'est comme, t'sais, on pourrait même pas demander à nos parents, parce que, t'sais, faut vraiment penser, c'est au Texas... comme tu dis, dans les années 70, puis tu sais, c'est clairement une ville où que le sport est très important, puis les joueurs de football de l'école, c'est comme des dieux, puis on comprend que c'est la priorité de l'école, puis qu'ils laissent faire un peu n'importe quoi, puis je pense qu'il y a un personnage dans Days and Confused, un mané, qui le dit que, tu sais, toutes les initiations, tout ça, ça se passe sur le terrain de l'école, comme dans le stationnement, tout ça, puis il est comme genre, ah ben, on dirait que c'est vraiment toléré, voire approuvé, que, tu sais, clairement, les adultes sont au courant que ça se passe, puis ils laissent ça aller, tu sais.
Ouais, c'est un peu... je veux dire, on a eu des histoires qui n'avaient pas d'allure d'initiation il n'y a pas tellement longtemps au Québec, là. Mais tu sais, de vraiment châtiment corporel... en tout cas, mais encore une fois, il faut remettre ça dans le contexte. Mais comme je te dis, c'est surtout que j'attendais. Je me disais, il va se passer quelque chose. J'avais l'impression d'écouter une version préhistorique de... et là, évidemment, de Superbad. Tu sais, bon, où il se passe des choses, mais c'est un peu ça aussi. C'est une soirée avec un party, c'est des élèves à l'école. Pas exactement le même scénario, mais c'est pas non plus, tu sais, le grand développement personnel ou moral des personnages. On est plus là pour rire des facéties ou des affaires qui n'ont pas d'allure. Et après avoir écouté, tu sais, après avoir fini Days and Confused, je vois l'intérêt, mais je ne comprends pas pourquoi on dit que c'est un film culte. C'est un bon film, puis peut-être qu'effectivement, ça à l'époque, c'était le premier du genre, peut-être, je sais pas. Mais en 2023, moi, j'aurais de la misère à dire, faut absolument que tu vois Days and Confused, à part pour la fameuse scène avec Matthew McConaughey, dont on va parler tantôt, là. Mais je cherche la pépite, tu sais, je disais sur Wikipédia que ça a fait pas beaucoup d'argent au box-office au départ et que c'est venu après l'intérêt pour ce film-là et j'arrive pas à comprendre pourquoi.
Ben, c'est ça. Moi, je suis tout le contraire de toi. Moi, pour moi, c'est non seulement un film culte, mais comme je disais, c'est un de mes films préférés. Plus que je le vois, plus que le temps passe, plus que je suis comme, tu sais, j'ai jamais fait un top, mettons, 10 officiel de mes meilleurs films de tous les temps, mais plus ça va, plus que je me dis qu'il y aurait des chances d'être dedans. Fait que je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je te dirais que ce qui m'apparaît de plus en plus, c'est que le génie, puis je dis bien le génie de Linklater, c'est justement de, autant que c'est un film qui a l'air de rien se passer, c'est juste des jeunes qui se font tabasser, qui se promènent en char, qui fument du pot, qui boivent de la bière, qui french, etc. Autant que ça se fait pas par hasard. T'sais, comme je disais, il y a quelque chose comme 25 personnages qu'on reconnaît et qu'on retrouve à travers le film, puis ça se passe pendant une journée, une nuit, et plus qu'on voit le film, moi c'est un film que j'ai vu une dizaine de fois, c'est vraiment impressionnant à quel point que, mettons, il y a des personnages qu'on voit, mettons, au début à l'école, puis là, à un moment donné, on les voit plus pendant un petit bout de temps, ils se ramassent, sont à la salle de billard, ah, tel personnage, il revient, tout ça. Puis moi, j'étais en train de me demander hier, c'est comme, comment que t'écris un scénario comme ça? Est-ce que Linklater avait comme des graphiques, puis tous des cartons collés sur un mur avec des flèches, puis des lignes, puis une ligne temporelle pour justement, parce que tu sais, ça a l'air tellement naturel et fluide quand tu regardes le film. Ça a juste l'air d'être... Ça a presque l'air d'être un documentaire que lui, il se promène à travers la ville, il met sa caméra, puis là, les jeunes vont et viennent, tout ça. Mais, tu sais, vu que c'est une fiction, clairement, tout est décidé, tout est... Tu sais, il faut que il y ait une logique à travers ça. On la sent pas nécessairement, vu que c'est pas un film qui a une histoire claire, que... Ah, OK, tel personnage doit se rendre du point A au point B, mais il y a vraiment, tout est naturel, comme je disais, tu sais, t'as jamais l'impression de, ah, qu'est-ce qui se passe, je suis perdu, t'as vraiment l'impression que c'est le déroulement, surtout de la soirée et la nuit, puis c'est ça que moi, j'adore, puis que retrouver, puis plus j'y pense, il y a beaucoup de mes films vraiment préférés à vie, que c'est un peu ça. Tu sais, je pense à Almost Famous, je pense à Once Upon a Time in Hollywood, des films qui ont peut-être plus une histoire claire que Days and Confused, mais quand même, il y a le côté que souvent, pendant des longs bouts du film, on fait juste, tu sais, comme je disais, passer du temps avec ces personnages-là, puis quand t'aimes les personnages, ça c'est un autre gros élément, à part peut-être t'sais, Ben Affleck ou les pires intimidateurs, t'sais, eux, oui. C'est vraiment des trous de cul, on les aime pas, t'sais, on aime les haïr dans le fond, mais oui. Il y a vraiment plein de monde dans Dazed and Confused que j'adore. Je pense entre autres à Willie Wiggins qui joue un des personnages quand même qu'on voit le plus, que c'est un des freshmen qui se fait tabasser au début du film, c'est le lanceur dans la partie de baseball, puis que finalement, il se fait inviter à aller faire le party avec les plus vieux, tout ça, puis je saute un peu du coq à l'âne, mais ça me fait penser aussi que quelque chose que je trouvais comme « wow, ok, c'est je reconnaissais quelque chose là-dedans », c'est que celui qui l'invite à aller faire le party, c'est le personnage qui s'appelle Pink, c'est son surnom, qui est joué, je pense, par Jason London.
Oui.
C'est comme le corps arrière de l'équipe de football, mais tu sens que c'est pas un trou de cul celui-là, contrairement au personnage de Ben Affleck. Lui, il est cool, il se tient un peu avec tout le monde, il est gentil avec tout le monde. Tu sais, il joue au football, mais il se tient aussi avec les poteux. Finalement, il se ramasse à bomber un peu avec le petit jeune, puis tout ça, puis à le prendre sous son aile. Puis ça me rappelait aussi quelque chose que moi, de mon expérience de secondaire, j'étais plutôt... geek et nerd, tu sais, j'étais vraiment pas dans la gang des cools. Puis dans la gang des cools, il y avait vraiment des trous de cul puis du monde qui était un peu bully. Mais il y en avait tout le temps quelques-uns que eux, tu sais, tu pouvais leur parler, faire des jokes avec eux. Puis même si t'étais pas cool, ils t'acceptaient quand même. Tu te sentais pas comme de la merde. Fait que tu sais, je trouve que c'est quelque chose qui est authentique, justement, de montrer qu'il y a quand même des nuances. Tu sais, oui, à part le personnage, mettons, de Ben Affleck, qui est vraiment le trou de cul du film, finalement, les jeunes se vengent sur lui éventuellement. Tu sais, tout le monde est un peu chill, tout le monde est assez cool, puis il y a une bonne atmosphère dans ce film-là qui est le fun à retrouver. Toi, je pense que c'est la première fois que tu le voyais.
Oui, pas mal.
Mais c'est
fois,
ça,
oui.
C'est un film que je pense que... Ben, peut-être que si tu l'aimes pas du tout, tu voudras pas le revoir, mais moi, vu que c'est un film que j'ai vu une dizaine de fois depuis que je suis ado, depuis presque 30 ans, à chaque fois que je le revois, c'est comme retrouver des amis, c'est comme revivre leur jeunesse, mais aussi indirectement un peu ma jeunesse, parce que tu te projettes à travers tout ça, fait qu'il y a quelque chose de vraiment incroyable, qu'il y a pas beaucoup de films, je trouve, qui créent ce sentiment-là.
Ben, écoute, encore une fois, je vais pas répéter le fait que moi, malheureusement, j'ai pas vécu la même expérience, là, mais ce que je peux dire du film, ce que je peux ajouter à propos du film, puis, tu sais, je l'écoutais, puis je pensais à des films que moi, j'avais vus quand j'étais jeune, des trucs comme Revenge of the Nerds, qui doivent être complètement inécoutables aujourd'hui, c'était vraiment, tu sais, le truc de base. C'était les nerds, on fait des blagues, puis il y a des trucs un peu sexuels, puis on se venge des gros puffins, justement, qui sont dans l'équipe de football et tout ça. Et ça, c'est des films des années 80, puis c'est vraiment des trucs, tu sais, National Lampoon et bon, ainsi de suite, là. On n'est pas là-dedans, heureusement, puis on n'est pas dans... Tu sais, oui, au début, c'est ça, la première demi-heure... Les trois premiers quarts d'heure, j'ai trouvé ça difficile parce que j'attendais, c'est ça, cette progression-là. Mais la progression arrive, la progression est là. Et les choses sont... Tu comprends, je parlais de deuxième niveau au début de l'épisode, puis tu vois le deuxième niveau apparaître en filigrane. Et c'est sûr qu'il y a personne qui se tourne à la caméra en disant « voici le deuxième niveau ». C'est pas ça que tu veux non plus dans un film. Je pense que la finesse de Linklater là-dedans, c'est d'aller... de faire apparaître ça peu à peu. Tu parlais du personnage du corps arrière, l'équipe de football, tout le long de l'épisode, mon Dieu, c'est pas un épisode de série télé, tout le long du film, voilà, le coach, l'entraîneur lui pousse dans le dos pour dire, regarde, faut que tu signes une déclaration disant que tu t'engages à pas faire le party, ce qui est un peu paradoxal, alors que l'école a l'air de donner le feu vert, justement, à des affaires qui n'ont pas d'allure. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, une école qui dirait, d'accord, vous pouvez battre des jeunes élèves sur le terrain de l'école, le ministre interviendrait tout de suite, là, il y aurait mis sous tutelle, ou en tout cas, une commission scolaire qui interviendrait. Bref. Et c'est ça, le corps arrière, tout le long du film, va se rendre compte, finalement, que ça lui tente pas de respecter cette espèce d'hypocrisie-là. Puis, parallèlement, ça ne tente pas de devenir comme les autres joueurs de football qu'il connaît, comme le personnage de Ben Affleck. D'ailleurs, c'est là-dedans, évidemment, tout le monde a 30 ans de moins, c'est assez particulier. Tout le monde est très jeune, ça fait Ben Affleck qui est plus large d'épaule, plus un peu plus poupin, si on veut, qu'aujourd'hui, évidemment, il a maigri un peu avec le temps. Mais bref, c'est ça. Donc, certaines choses comme ça qui apparaissent. Le petit jeune dont tu as parlé tantôt, le nouvel élève au secondaire qui, au début, a juste peur des méchants, ben là, après ça, il devient cool un peu, puis il commence à comprendre comment ça marche avec les filles, puis tu sais, il se fait donner des conseils qui n'ont pas d'allure aussi, là. Mais bon, c'est l'époque. Mais tu sens que c'est pas... tu sais, il veut pas lui non plus s'aligner pour devenir un trou de cul plus tard. Donc, il y a vraiment une finesse qui apparaît. Après trois quarts d'heure, après peut-être une heure, après une heure, elle est vraiment là. Tu la vois, tu comprends ce que les gens veulent dire, veulent faire. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mais encore une fois, ça m'a pris du temps pour arriver à ce point-là. Et j'aurais peut-être préféré que, tu sais, qu'on y arrive un peu plus, un peu plus rapidement, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais je peux voir l'intérêt, je peux voir l'attrait, comme tu disais, toi, là, de le réécouter, puis de dire, OK, moi, je reconnais des gens là-dedans, je reconnais mon passé. Tu disais, bon, t'étais un peu plus neutre, ben moi, évidemment, je l'étais aussi. Puis moi, le film qui me ferait un peu retrouver mes amis, c'est Breakfast Club. Mm-hmm. Un peu plus ancien comme film aussi, mais... Tu sais, les gens, justement, les gens qui n'ont pas beaucoup de balais, évidemment, il y a un type un peu, un jock, là, comme on dit en bon anglais, sportif et tout ça qui est là-dedans, mais moi, je m'identifiais sans surprise au personnage de nerd qui est vraiment là, rejeté par tout le monde, n'arrive pas à se faire des amis. Je pense qu'il avait essayé de se suicider avec un pistolet dans le fusée ou je sais pas trop.
Ouais, ouais.
En tout cas, parce qu'il avait eu une mauvaise note à un moment donné, mais tu sais, il était clairement pas bien dans sa peau. Et je me souviens qu'à la fin du film, t'as l'espèce de bum qui est sur le terrain de football de l'école, puis là, il dresse le poing dans les airs, puis là, l'image change et le générique apparaît, puis je me disais, non, mais je veux savoir ce qui va se passer le lundi, là, on est dimanche, je veux savoir ce qui va... Ou en tout cas, on est samedi ou dimanche, je veux savoir ce qui va se passer lundi quand les gens vont arriver à l'école. Bref, est-ce que t'as envie qu'on parle de Matthew McConaughey? Je pense que ça rentre aussi dans le... Ben, parce que ça rentre aussi dans cette finesse-là, je pense, dans ce filigrane-là. Matthew McConaughey, là-dedans, joue un personnage, je pense, qui est dans la vingtaine, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est dans la jeune vingtaine. En tout cas, c'est clair que lui, il a gradué du high school, mais il continue à se tenir un peu avec les plus jeunes. T'sais, c'est sûr qu'il y a un côté un peu creepy, là, mm-hmm. Surtout qu'il tourne autour des filles, puis tout ça. T'sais, t'es comme, ah, OK... Puis, je pense que c'était peut-être le premier rôle au cinéma de Matthew McConaughey. Puis c'est un acteur déjà tellement charismatique que même si son personnage a quelque chose de pathétique, puis c'est pas un exemple à suivre, mais il est tellement charismatique que t'es comme, c'est lui qui laisse la plus forte impression, je pense, quand tu regardes ce film-là. Autant dans le temps quand il était inconnu que maintenant, c'est sûr, on le regarde et on est comme « Ah, oh my God, c'est un jeune Matthew McConaughey », mais quand même, je pense qu'il y a une force dans sa performance et il y a plein de lignes de dialogue super iconiques comme son fameux « Alright, alright, alright » qu'il a dit pour la première fois dans ce film-là.
Oui.
C'est ça, c'est... Moi, j'ai un... Je pense que je l'ai plus, mais j'avais un T-shirt que c'était... Matthew McConaughey dans Dazed and Confused, puis tu sais, c'était...
Ben, je sais pas à quel point ça envoie un message positif de porter ça.
Mais non, bon, mais tu sais, je veux dire, c'est comme avoir un T-shirt avec Darth Vader, ça veut pas dire que t'approuves de ses actions, c'est juste que, tu sais, c'est un personnage iconique, là.
Et tu es en train de dire ça parce que j'ai effectivement un T-shirt avec Darth Vader dessus. tu disais, bon, la fameuse phrase « Alright, alright, alright » qui reprend, entre autres, dans « Wolves of Wall Street », ça se peut-tu?
Je me souviens pas ce qu'il a dit exactement, mais c'est il y a un peu un style de jeu qui revient souvent.
Il y a un sacré bagou. Il est vraiment... Il est suave. Il est vraiment comme... Tu sais, un peu trop smooth pour être naturel. Là, tu sens qu'il travaille le personnage. Il y a une espèce de moustache molle aussi. C'est vraiment années 70. Et il y a sa fameuse phrase. Il disait, bon, il tourne autour des filles. Il disait, ah, ben moi, je vieillis. Puis les filles de secondaire restent le même âge. Tu sais, ils restent au même âge. Puis là, je suis comme, ah, oh, man... tu sais, c'est... Puis le pire, c'est que ça marche. Et à un moment donné, tu vois que ça pogne pareil. Tu sais, c'est un homme plus vieux, puis il est séduisant. C'est un très bel homme, Matthew McConaughey, on s'entend, là. Ben avec une moustache molle. Et ça marche. Là, t'es comme... Tu sais, fille, respecte-toi un peu. Je sais pas, il y a quelque chose
de... Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui ou si... Il y a plus de limites, mais moi, je me souviens que quand j'étais au secondaire, il y avait tout le temps quelques filles qui sortaient avec des gars du cégep ou de l'université, ouais. Ou, tu sais, c'était...
Ben, aujourd'hui, ça serait illégal.
Hein?
Aujourd'hui, je pense que ça serait illégal.
Non, ben, c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, on est plus conscient que, tu dis, que c'est illégal, puis que... On touche pas à ça, là, mais...
Non, effectivement. Mais, tu sais, il y a toujours des histoires, effectivement, de même si t'es au secondaire, mettons, au secondaire, j'ai pas connu ça, mais c'est sûr que t'es une jeune fille en secondaire 2 ou 3, puis là, les gars en secondaire 5 ont donc l'air vieux puis mature, puis, tu sais, c'est donc bien le fun de se sentir apprécié par quelqu'un de plus vieux. Tu sais, le phénomène se répète, c'est sûr que j'ose croire que les gens sont plus au courant de... À quel point c'est soit une zone très, très grise, soit c'est carrément, justement, dans l'illégalité, là. Mais bon, ça, je suis pas non plus spécialiste en droit, là. C'est pas un épisode de podcast sur l'âge du consentement. mais bref, c'est ça. Le personnage qui est là, puis tu sais, bon, il a son auto, ils conduisent tous, à peu près tous des gros bazous, des Corvettes, puis des voitures, tu sais, des voitures américaines. Il n'y a pas de... C'est pas encore l'invasion des voitures japonaises des années 80. Tu sais, c'est gros chars américains qui doivent consommer à peu près... un doit faire à peu près 1 km au galon, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment une instantané d'une époque qui est révolue aujourd'hui, bien sûr. Bon, tu as mentionné à plusieurs reprises que tu aimais beaucoup, beaucoup le film. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes moins, par contre?
Ben, rendu à ce point-ci, je pense pas comme... je peux parler des deux dernières fois que j'ai vu le film, dont hier soir. Tu sais, hier soir, c'était super. J'ai vraiment passé un super moment, puis j'étais vraiment « wow, OK ». Comme je disais, j'étais comme... Ça m'a rendu nostalgique de... Je me disais « ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans une situation que... » Tu sais, non seulement quand t'es jeune... comme les personnages de Dazed and Confused, qui ont la vie devant eux. Tu sais, c'est vraiment un sentiment qui est loin de moi, là, dans la quarantaine. Mais, tu sais, même peu importe l'âge, tu sais, de partir, mettons, une soirée sans jamais savoir où que ta soirée va te mener. Donc, il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent à toi l'espace d'une nuit. Tu sais, c'est quelque chose que... Tu sais, ça m'arrive beaucoup moins, puis que je me dis « Ah, faudrait que ça m'arrive une fois de temps en temps, de justement, tu sais, dans les limites du raisonnable, d'un peu partir sur le party, là. » Fait que ça, c'est une chose. Ça, c'est quand j'ai regardé le film hier, puis j'ai adoré. Et la dernière fois que j'avais vu le film, c'était il y a 10 ans. Ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Puis je m'en rappelle parce que, tu sais, on disait qu'en ce moment, c'est le 30e anniversaire. Mais il y a 10 ans, j'étais allé... avec mon épouse, à une projection pour le 20e anniversaire. C'était nous, on habitait dans Saint-Henri à l'époque, puis à la terrasse Saint-Ambroise, il avait fait une projection extérieure. Tu sais, c'était vraiment drôle, le film était projeté comme sur une espèce de 18 trous, sur la boîte blanche, il avait projeté le film là-dessus, à côté de la terrasse. Puis, en plus, Willie Wiggins, qui est un des acteurs principaux du film, était sur place pour présenter le film, puis après le film, répondre aux questions des gens, tout ça. Puis moi, c'est vraiment, j'en parle régulièrement sur Twitter ou ailleurs, c'est vraiment une de mes meilleures expériences cinématographiques à vie. Il y avait vraiment quelque chose d'électrisant dans cette projection-là. Et je pense que quand j'écoutais le film hier, je me disais, j'essayais de me rappeler qu'est-ce qui était si fantastique. Puis je pense que c'est aussi le côté... Tous les deux, on l'a mentionné, c'est tellement une des meilleures trames sonores. Il y a du classic rock qui joue constamment, tu sais, du Aerosmith, Alice Cooper, Black Sabbath, Kiss, toutes les vieux bands des années 70, que de voir le film projeté, comme je disais, avec une foule, projection extérieure, puis il y avait un super bon système de son. Il y avait un côté... concert rock ou festival de rock. Fait que même si c'était un film, c'était vraiment festif puis vraiment rock, justement. Puis c'est ça, je pense qu'à part ce film-là, puis Almost Famous, puis une couple d'autres, tu sais, il y a pas beaucoup de films qui peuvent se porter à ça, là, puis... Fait que c'est ça, je me souviens plus... Ah, tu me demandais c'était quoi les points négatifs, fait que clairement, j'ai pas de points négatifs, je suis parti sur une tangente.
Ben, c'est tout à fait correct, puis c'est le fun, tu sais, ça fait partie de l'expérience du podcast, c'est d'amener nos points de vue personnels. C'est ça qui fait qu'on offre une critique aussi. On peut juger juste sur la qualité de l'œuvre, mais on peut, si ça évoque des souvenirs, justement, tant mieux si on peut en parler. T'sais, bon, déjà un podcast, on le sait, anarcho-syndicaliste de combat. Si on peut être un podcast aussi d'amateurs de musique de classic rock, tant mieux. On peut faire du multitâche comme ça. Ben, écoute, voilà, c'est Dazed and Confused. J'imagine, bon, toi, tu le recommandes, bien entendu.
Ah oui, je sais que toi, t'as plus de réserves, mais moi, je le recommande fortement. Faut juste accepter que c'est un film qu'il y a pas tant... C'est pas un film de John Hughes, comme Breakfast Club, tout ça, où mm-hmm. il y a plus une thèse ou une histoire qui se déroule, puis des secrets des différents personnages qui ressortent, ce qui est super. J'adore Breakfast Club, j'ai pas de problème avec ça. C'est vraiment, comme je disais, un hangout movie, passer du temps avec tous ces jeunes-là, puis les voir faire le party, puis peut-être être nostalgique.
Est-ce que tu penses, parce que là, tu viens de dire le mot nostalgie, puis ça tombe bien, c'est là-dessus que je voulais te poser une question avant qu'on termine. On a déjà un certain âge, je suis pas en train de dire qu'on est à l'article de la mort, mais tu sais, bon, déjà un certain âge. Si j'approche un jeune, mon Dieu, je me sens vieux quand je dis ça. J'approche quelqu'un dans la vingtaine, par exemple, que lui, même en 93, il était pas là. est-ce que tu penses que ça marcherait comme film? Parce que là, ça, c'est vraiment rendu là, c'est 50 ans avant qu'il vienne au monde, peut-être, là. Est-ce que tu penses que ça, je parle de l'époque où le film se déroule, là, pas l'époque où ça a été tourné. Est-ce que tu penses que ça l'accrocherait quand même au point tel que toi, ça t'a accroché ou que moi, ça a quand même réussi à m'accrocher?
Ben, ça dépend parce que c'est sûr que si c'est un jeune qui trippe seulement sur ce qui est actuel, puis TikTok, puis la musique d'aujourd'hui ou whatever, ouais. Peut-être pas, mais moi, je croise à l'occasion des jeunes, des ados qui ont... des t-shirts de Led Zeppelin ou de Pink Floyd ou tu sais, puis je pense qu'il y a quelque chose d'un peu éternel qui va toujours avoir, il y a comme une phase quand t'es ado, je sais pas pourquoi, mais la musique des années 70, il y a des bonnes chances que t'aies ta phase ou que t'écoutes The Doors ou toutes ces vieux bands là, puis que à cause de ça, je pense que même un ado d'aujourd'hui pourrait regarder Dazed and Confused et triper au bout parce que c'est vraiment une réalité. Puis aussi, moi, quand je vais voir des spectacles, je vais, tu sais, vu que je suis vieux et nostalgique, je vais souvent voir des vieux bands comme, tu sais, l'année passée, je suis allé voir Roger Waters ou je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, j'étais allé voir Genesis ou tout ça. Puis je suis tout le temps étonné que justement... Oui, c'est un public de tête blanche, mais il y a quand même tout le temps un certain nombre de jeunes. Souvent, tu sais, tu vois que c'est le papa et son jeune de, mettons, 15-20 ans, mais quand même, justement, il y a cette transmission. Puis, tu sais, dans mon cas, c'est littéralement ce qui s'est passé. Tu sais, je pense que j'en ai déjà parlé au podcast. Le premier gros concert que j'ai vu à vie, c'était Pink Floyd en 94. Puis, tu sais, j'étais allé avec mon père. Tu sais, moi, mon père, il avait l'âge à peu près de Linklater. Je pense que Linklater est né en 60. Puis moi, mon père est né en 61. Donc, dans les deux cas, eux, leur adolescence, c'était les années 70 et le classic rock. Puis moi, ça m'a vraiment été transmis de mon père. Tu sais, j'ai hérité de sa collection de vinyles, tout ça. Fait que la première musique que j'ai écoutée par moi-même, tu sais, c'était les vinyles à mon père. Donc, j'écoutais toute cette musique-là. Fait que je pense que même aujourd'hui, en 2023, il y a encore... tu sais, on est peut-être rendu à la troisième génération qui se transmet ça, dans le sens que c'est peut-être... les enfants des enfants de ceux qui étaient ados dans les années 70, tu sais, c'est « Ah oui, grand-papa, il aimait ça, Aerosmith, tu sais, on est peut-être rendu là, mais je sais pas, je pense que ça se peut d'encore triper sur ce film-là, même si c'est pas notre jeunesse à nous, là. »
Ben, merci beaucoup, Kevin, c'est très intéressant. Donc, Dazed and Confused, je l'ai dit, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, j'ai certaines réserves, je pense que le film tarde un peu trop à vraiment laisser transparaître un peu plus que c'est pas juste 1h45, 2h de gens qui font des affaires qui n'ont pas d'allure, qui en tout cas aujourd'hui n'ont plus d'allure. Mais effectivement, je pense que ça, la façon dont c'est structuré, la façon dont c'est joué, ça vaut la peine d'être vu. Je ne mettrai pas ça pas nécessairement dans mon top 10, mais je le mettrai dans ma liste de films à voir, de films importants à voir. Puis effectivement, en tout cas, j'ai plus apprécié ça honnêtement que j'appréciais Boyhood. Je cherchais là ma critique de Boyhood, j'en ai fait une à l'époque, et c'est sorti en 2014, et ce texte-là est perdu dans les archives quelque part. On a une coupure à modèle, on a changé d'hébergeur, et ça a fait en sorte que on a, en tout cas, l'ancienne version du site tenait vraiment avec de la grosse broche. Et là, avec deux versions du site, c'était tout croche. Et quand on a changé d'hébergeur, on nous a dit « Non, c'est pas le même que ça marche ici. » Fait que vous allez structurer vos affaires, les boys. Donc, on a structuré nos affaires, mais donc, on a toute une section de texte pas disparu, mais disons, pas accessible en ligne pour l'instant. Un jour, peut-être, je ferai le travail de moine consistant à tout transférer les archives, parce qu'il faut le faire manuellement, donc c'est super le fun. Mais voilà, donc, Dazed and Confused, effectivement, à voir, ne serait-ce que pour cette nostalgie des années, j'allais dire des années 90, mais plutôt des années 70. Voilà. Ça se trouve, ben, je regardais rapidement, là, je sais que c'est sur ton offert en location, à l'achat, là, sur plusieurs plateformes en ligne. Je disais tout à l'heure, toi, tu penses que tu l'as en DVD, c'est ça?
Je possède le DVD, oui.
OK. Donc, vous pouvez le trouver en DVD, évidemment. Peut-être, je pense qu'il va y avoir une version Blu-ray, jamais je croirais.
Peut-être. Il y a même une édition Criterion qui existe. Je ne sais pas si elle est seulement en DVD ou aussi en Blu-ray. Il faudrait vérifier, là, mais...
Mais effectivement, ou comme je disais, bon, probablement qu'il y a une version VHS qui traîne quelque part dans un Renaissance ou dans un village des valeurs, ou dans le sous-sol de chez votre grand-père ou grand-mère. On ne sait jamais. Kevin, avant qu'on se laisse, je faisais un décompte l'autre fois, puis on a arrêté là, de donner le numéro d'épisode, parce que surtout que là, maintenant, s'il y a des épisodes bonus, puis il y avait des épisodes d'été, puis c'était compliqué. Bref, mais je faisais le décompte et je me suis rendu compte qu'on a oublié un épisode. On a oublié l'épisode 94. On est rendu à 100 quelques, là, je pense, ou en tout cas, on approche du... Encore une fois, c'est compliqué, là, il y a toutes sortes de choses, mais selon le décompte officiel, on est passé de 93 à 95, épisode 94, qui est quelque part, il faudrait que je le retrouve, mais effectivement, est quelque part, je m'en excuse, là, je sais qu'on avait travaillé fort là-dessus, mais voilà, donc est-ce que tu me pardonnes de ne pas avoir sorti...
Ben, je te pardonne, surtout que c'est peut-être pas de ta faute, il y a peut-être un complot pour faire disparaître l'épisode 94, peut-être qu'on a dit des choses trop dangereuses, puis que le système essaye de cacher cet épisode-là.
Voilà. Big podcast nous cache des choses. En tout cas, je vais fouiller dans les archives, je vais regarder ça, essayer de retrouver ce fameux épisode. Je m'en voudrais là, de juste jeter ça par la fenêtre, de faire en tout cas métaphoriquement parlant. Donc, merci d'avoir été avec moi, Kevin, pour ce 7e épisode bonus de Rembobinage. Fait en primaire bonus, j'ai toutes sortes d'appellations là aussi. Donc, on se reparle bientôt, on se reparle très bientôt, parce que généralement, on se parle une fois par semaine.
Oui, d'ailleurs, on a déjà choisi le prochain film qu'on va parler. Oh, oui, tu vois ton expression que tu as oublié.
Mais c'est vrai, oui, pardon, c'est vrai. On continue avec notre cinéma québécois, c'est bien ça?
C'est ça, on revient dans l'actualité, puis il y a le film Solo de Sophie Dupuis qui prend l'affiche la semaine prochaine, donc on fera un épisode là-dessus.
Voilà, évidemment, ne pas confondre avec Solo, le film basé sur Star Wars, ça ne doit pas être la même chose, que j'espère.
Non, d'après moi, il n'y a pas Lando Calrissian dans le film de Sophie.
Je suis un peu déçu. Bref, merci Kevin d'avoir été là. Merci à ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous écoutent, si vous écoutez ceci en primaire, un très, très gros merci. Si vous l'écoutez comme auditeur régulier, un gros merci aussi. Encore une fois, bon, si vous voulez avoir ces fameux épisodes bonus un mois à l'avance, vous n'avez qu'à vous abonner. Donc, ça coûte 5$ par mois et vous avez accès à toutes sortes d'autres avantages. En plus, évidemment, de nous encourager, d'alimenter notre train de vie princier à Kevin et à moi-même. très vieux principe qui consiste à s'acheter un micro de temps en temps. Mais voilà. Donc, un gros merci et on se parle très bientôt. À la prochaine.